Chapitre 1. Une couleur discrète. Des origines au XIIe siècle. Les usages sociaux, artistiques et religieux de la couleur bleue ne remontent pas à la nuit des temps. Pas même au Paléolithique supérieur, lorsque les hommes, encore nomades mais vivant depuis longtemps en société, ont réalisé leur première peinture pariétale. Sur celle-ci, pas de place pour le bleu. Des rouges, des noirs, des bruns, des ocres de toutes nuances, mais pas de bleu, ni de vert et à peine de blanc. Il en va presque de même quelques millénaires plus tard, au Néolithique, lorsque sont apparues les premières techniques de teinture. L'homme, devenu sédentaire, teint en rouge et en jaune bien avant de teindre en bleu. Cette couleur, pourtant largement présente dans la nature depuis la naissance de la Terre, est une couleur que l'être humain a reproduite, fabriquée et maîtrisée difficilement et tardivement. C'est peut-être ce qui explique pourquoi, en Occident, le bleu est resté pendant si longtemps une couleur de second plan, ne jouant pratiquement aucun rôle ni dans la vie sociale, ni dans les pratiques religieuses, ni dans la création artistique. Par rapport au rouge, au blanc et au noir, les trois couleurs de base de toutes les sociétés anciennes, sa dimension symbolique était trop faible pour signifier ou transmettre des idées, pour susciter des émotions ou des impressions fortes, pour organiser des codes et des systèmes, pour aider à classer, à associer, à opposer, à hiérarchiser. Cette fonction classificatoire est la première des fonctions de la couleur dans toute société, voire pour communiquer avec l'au-delà. La place discrète du bleu dans les activités humaines et la difficulté qui existe dans plusieurs langues anciennes pour nommer cette couleur ont conduit plusieurs savants du XIXe siècle à se demander si les hommes et les femmes de l'Antiquité voyaient le bleu, ou du moins s'ils le voyaient tel que nous le voyons. Aujourd'hui, ces questions ne sont plus d'actualité. Mais le faible rôle social et symbolique joué par le bleu dans les sociétés européennes pendant plusieurs millénaires, du néolithique jusqu'au cœur du Moyen-Âge, demeure un fait historique indéniable sur lequel il convient de s'interroger. Le blanc et ses deux contraires. La couleur a toujours entretenu des rapports privilégiés avec la matière textile. Par là même, pour l'historien, étoffes et vêtements constituent le terrain documentaire le plus riche et le plus diversifié pour tenter de comprendre la place, le rôle et l'histoire des couleurs dans une société donnée. Un terrain plus riche et plus diversifié que ceux du lexique, de l'art ou de la peinture. L'univers du tissu est celui qui mêle le plus étroitement les problèmes matériels, techniques, économiques, sociaux, idéologiques, esthétiques et symboliques. Toutes les questions de la couleur s'y trouvent posées. Chimie des colorants, technique des teintures, activités d'échange, enjeux commerciaux, contraintes financières, classification sociale, représentation idéologique, préoccupations esthétiques. L'étoffe et le vêtement sont par excellence le lieu d'une recherche pluridisciplinaire. Ils nous accompagneront tout au long du présent livre. Toutefois, pour ce qui concerne les sociétés les plus anciennes, le silence des documents et des témoignages ne permet pas d'étudier, ni même de mettre en valeur, ce lien privilégié de la couleur avec le vêtement. Dans l'état actuel de nos connaissances, on s'accorde à situer entre le 6e et le 4e millénaire avant notre ère les premières activités de teinture sur support textile. Les peintures corporelles et la teinture de certaines matières végétales, bois, écorce, sont plus anciennes. Et les premiers fragments de tissu teint parvenus jusqu'à nous ne sont pas européens, mais asiatiques et africains. En Europe, il faut attendre la fin du 4e millénaire avant notre ère pour recueillir les premiers témoignages. Tous s'inscrivent dans la gamme des tons rouges. Ce dernier point est remarquable. Jusqu'au début de l'époque romaine, en Occident, teindre une étoffe consiste le plus souvent, mais pas exclusivement, bien sûr, à substituer à sa couleur d'origine une couleur prenant place dans la gamme des rouges, depuis les ocres et les roses les plus pâles jusqu'aux pourpres les plus intenses. Les matières qui servent à teindre en rouge, la garance, qui fut probablement la plus ancienne teinture, mais aussi d'autres végétaux, le kermès et certains mollusques, entrent facilement et profondément dans les fibres textiles et résistent mieux que les autres teintures aux effets du soleil, de l'eau, des lessives et de la lumière. Elles autorisent également les jeux de nuances et de luminosité plus riches que les matières servant à teindre dans d'autres couleurs. Pendant plusieurs millénaires, la teinture des étoffes est donc surtout une teinture en rouge. Ce qui confirme encore à l'époque romaine le vocabulaire latin, qui fait des mots coloratus, coloré, et rubert, rouge, des synonymes. Cette primauté du rouge semble remonter très haut, bien en amont de l'époque romaine. Elle constitue une donnée anthropologique première et explique sans doute pourquoi, pour la plupart des sociétés indo-européennes, le blanc a longtemps eu deux contraires, le rouge et le noir. Ces trois couleurs constituant trois pôles autour desquels, jusqu'en plein Moyen-Âge, se sont organisés tous les codes sociaux et la plupart des systèmes de représentation construits sur la couleur. Sans être un chercheur d'archétypes, l'historien peut ici légitimement admettre que, pour les sociétés anciennes, le rouge a longtemps représenté un tissu teint, le blanc un tissu non teint, mais propre ou pur, et le noir un tissu non teint et sale ou souillé. Les deux axes primordiaux de la sensibilité antique et médiévale aux couleurs, celui de luminosité et celui de densité, sont probablement issus de cette double opposition. D'une part, le blanc et le noir, problème du rapport à la lumière, à son intensité, à sa pureté. De l'autre, le blanc et le rouge, problème du rapport à la matière colorante, à sa présence ou à son absence, à sa richesse, à sa concentration. Le noir, c'est le sombre, le rouge, c'est le dense, tandis que le blanc est à la fois le contraire de l'un et de l'autre. Dans ce système à trois pôles et à deux axes, pas de place pour le bleu, ni du reste pour le jaune, ni pour le vert. Cela ne veut pas dire que ces trois couleurs n'existent pas, loin s'en faut. Elles sont bien présentes dans la vie matérielle et quotidienne. Mais, sur le plan symbolique et social, elles ne remplissent pas les mêmes fonctions que les trois autres. Pour l'historien, nous le verrons, le grand problème sera de comprendre et d'étudier pourquoi, en Europe occidentale, entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIIIe, ce schéma ternaire, venu de la proto-histoire et articulé autour du blanc et de ses deux contraires, prend fin et cède la place à des combinatoires nouvelles. Au sein de celles-ci, le bleu, le jaune et le vert jouent désormais le même rôle que le blanc, le rouge et le noir. La culture occidentale passe en quelques décennies de systèmes chromatiques à trois couleurs de base à des systèmes à six couleurs de base, sur lesquels nous vivons encore en grande partie aujourd'hui. Teindre en bleu, la guêde et l'indigo. Mais revenons aux teintures antiques et signalons que si les Grecs et les Romains teignent peu en bleu, d'autres peuples le font. Ainsi, les Celtes et les Germains, qui, pour ce faire, utilisent la guêde. Latin guastum, vitrum, issatis, waida. Plante crucifère poussant à l'état sauvage sur des sols humides ou argileux dans de nombreuses régions de l'Europe tempérée. Le principe colorant, l'indigotine, réside essentiellement dans les feuilles. Mais les opérations nécessaires pour obtenir la teinture bleue sont longues et complexes. Nous en parlerons plus loin. Lorsque, au XIIIe siècle, la vogue nouvelle des tons bleus dans le vêtement révolutionnera les métiers de la teinturerie et fera de la guêde une authentique plante industrielle. Ainsi encore, et surtout, les peuples du Proche-Orient qui importent d'Asie et d'Afrique une matière colorante longtemps inconnue en Occident, l'indigo. Cette matière provient des feuilles d'un arbuste dont il existe de nombreuses variétés, mais dont aucune n'est indigène en Europe. L'indigotier. Celui des Indes et du Moyen-Orient pousse en buisson, ne dépassant guère 2 mètres de haut. Le principe colorant, ici aussi il s'agit de l'indigotine, plus puissant que celui de la guêde, se trouve dans les feuilles les plus hautes et les plus jeunes. Il donne aux étoffes de soie, de laine et de coton une teinte bleue profonde et solide, sans guère nécessiter l'utilisation d'un mordant pour bien faire pénétrer la couleur dans les fibres du tissu. Souvent, plonger le tissu dans la cuve d'indigo, puis l'exposer à l'air libre suffit pour lui donner sa couleur. Si celle-ci est trop claire, on répète l'opération plusieurs fois. La teinture à l'indigo est connue depuis le néolithique dans les régions où pousse l'arbuste. Elle y favorise la vogue des bleus dans l'étoffe et le vêtement. De bonne heure, cependant, l'indigo devient également un produit d'exportation, notamment l'indigo des Indes. Les peuples de la Bible s'en servent bien avant la naissance du Christ, mais c'est un produit cher. Il n'est utilisé que pour les étoffes de qualité. À Rome, en revanche, l'emploi de ce colorant reste plus limité, non seulement en raison de son prix élevé, il vient de fort loin, mais aussi parce que les tons bleus n'y sont guère appréciés, même s'ils ne sont pas totalement absents de la vie quotidienne. Les Romains, comme avant eux les Grecs, connaissent l'indigo asiatique. Ils le distinguent nettement de la guêde des Celtes et des Germains, et savent que c'est une teinture puissante qui vient des Indes, d'où son nom latin « indicum ». Mais ils ignorent la nature végétale de ce produit et croient qu'il s'agit d'une pierre parce que l'indigo arrive d'Orient sous forme de blocs compacts, résultant du broyage des feuilles en une pâte que l'on a fait sécher. On pense donc qu'il s'agit d'un minéral. Quelques auteurs, à la suite de Dioscoride, l'assimilent même à une pierre semi-précieuse, voisine du lapis lazuli. Cette croyance en la nature minérale de l'indigo perdurera en Europe jusqu'au XVIe siècle. Nous y reviendrons un peu plus loin à propos des teintures en bleu de l'époque médiévale. La Bible, qui parle beaucoup des étoffes et des vêtements, parle peu de teintures et de couleurs. Du moins en termes de nuances et de coloration. L'historien est ici gêné par les problèmes de vocabulaire et doit être très attentif aux différents « états » et aux différentes traductions des textes bibliques qu'il utilise ou qu'utilisent les auteurs, par exemple les pères de l'Église, qu'ils citent ou qu'ils commentent. Dans la Bible, en effet, les termes de couleur varient beaucoup d'une langue à l'autre et se font de plus en plus nombreux et précis au fil des traductions. Celles-ci sont remplies d'infidélités, de surlectures et glissements de sens. Le latin médiéval, notamment, introduit une grande quantité de termes de couleur, là où l'hébreu, l'araméen et le grec n'employaient que des termes de matière, de lumière, de densité ou de qualité. Là où l'hébreu, par exemple, dit brillant, le latin dit souvent candidus, blanc, ou même ruber, rouge. Là où l'hébreu dit sale ou sombre, le latin dit niger ou viridis, et les langues vernaculaires disent noir ou vert. Là où l'hébreu ou le grec disent pâle, le latin dit tantôt albus, tantôt viridis, et les langues vernaculaires soit blanc, soit vert. Là où l'hébreu dit riche, le latin traduit souvent par purpureus, et les langues vulgaires par « pourpre ». En français, en allemand, en anglais, le mot « rouge » est abondamment utilisé pour traduire des mots qui, dans le texte grec ou hébreu, ne renvoient pas à une idée de coloration, mais à des idées de richesse, de force, de prestige, de beauté ou même d'amour, de mort, de sang, de feu. Avant donc toute considération sur la symbolique des couleurs, une minutieuse enquête heuristique et philologique s'impose, chaque fois que le texte des Écritures est sollicité par l'historien. Ces problèmes difficiles expliquent pourquoi il est malaisé d'apprécier la place du bleu dans la Bible et chez les peuples de la Bible. cette place est probablement moins importante que celle du rouge, du blanc et du noir. Mais il n'est guère possible d'en dire davantage. Un mot hébreu qui a suscité des controverses passionnées met bien en valeur ce danger qu'il y a à vouloir traduire par des termes modernes de coloration ce qui, dans les versions anciennes, ne concerne que des termes de matière ou de qualité. Il s'agit du mot hébreu « tekelet », qui revient à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque. Certains traducteurs, philologues ou exégètes, y ont vu l'expression colorée d'un bleu dense et profond. D'autres, plus prudents, l'ont compris comme un terme de matière, une matière colorante animale, tirée de la mer, peut-être un murex d'une espèce particulière. Mais ils n'ont nullement remis en cause l'idée que cette matière servait à teindre en bleu. Or, aucun des coquillages dont se servent les teinturiers en Méditerranée orientale, à l'époque biblique, et le murex encore moins que les autres, ne produit une couleur stable et précise. Bien au contraire, tous ces mollusques donnent des tons allant du rouge au noir, en passant par toute la gamme des bleus et des violets. Sans même exclure certains reflets ou certains tons s'inscrivant dans celles des jaunes ou des verts. En outre, une fois entrée dans les fibres du tissu, la couleur continue d'évoluer et de prendre des nuances qui ne cessent de changer au fil du temps, caractéristique principale de toutes les pourpres antiques. Vouloir traduire « tekelet » par « bleu » ou même tenter d'associer cette matière à la couleur bleue est philologiquement difficile et historiquement anachronique. Peindre en bleu, le lapis lazuli et l'azurite. Sur les pierres précieuses, la Bible est plus bavarde que sur les teintures. Mais ici encore, se posent de délicats problèmes de traduction et d'interprétation. Le saphir, notamment, la pierre la plus fréquemment mentionnée par les livres bibliques, ne correspond pas toujours avec le saphir que nous connaissons et se confond parfois avec le lapis lazuli. Il en est du reste ainsi chez les Grecs et chez les Romains, de même que pendant tout le Moyen Âge. Les deux pierres, en général considérées d'une égale préciosité, sont certes bien connues et nettement distinguées par la plupart des encyclopédies et des lapidaires. Mais les mêmes termes désignent tantôt l'une, tantôt l'autre. Azurium, lazurium, lapis lazuri, lapis chitium, saphirum. Toutes deux sont utilisées dans les parures et les arts somptuaires, mais seul le lapis fournit un pigment dont se servent les peintres. Comme l'indigo, le lapis lazuli vient d'Orient. C'est une pierre très dure, aujourd'hui considérée comme semi-précieuse, qui, à l'état naturel, présente un bleu profond, pailleté ou veiné d'un blanc légèrement doré. Les anciens prenaient ces vénules pour de l'or. Il s'agit en fait de pyrite de fer, ce qui augmentait le prestige et le prix de la pierre. Les principaux gisements de lapis lazuli se trouvaient en Sibérie, en Chine, au Tibet, en Iran et en Afghanistan. Ces deux derniers pays étant les principales sources d'approvisionnement de l'Occident antique et médiéval. La pierre valait très cher, non seulement parce qu'elle était difficile à trouver et qu'elle venait de loin, mais aussi parce que son extraction demandait, en raison de sa dureté, un travail très long. En outre, les opérations de broyage et de purification, qui permettent de transformer le minéral naturel en un pigment utilisable par les peintres, sont lentes et complexes. Le lapis contient un grand nombre d'impuretés qu'il faut éliminer pour ne garder que les particules bleues minoritaires dans la pierre. Les Grecs et les Romains le font mal. Souvent même, ils se contentent de broyer simplement la pierre dans son ensemble. C'est pourquoi, lorsqu'ils peignent au lapis, leur bleu est moins pur et moins beau que celui que l'on rencontre en Asie ou, plus tard, dans le monde musulman et dans l'Occident chrétien. Les artistes médiévaux, en effet, trouveront des procédés à base de cire et de lessive diluée pour débarrasser le lapis lazuli de ses impuretés. En tant que pigment, le lapis produit des tons bleus d'une grande variété et d'une belle intensité. Il est solide à la lumière, mais son pouvoir couvrant est faible. C'est pourquoi il s'emploie surtout pour les petites surfaces. L'enluminure médiévale y trouvera son plus beau bleu. Et, en raison de son prix, pour les zones de l'image, de l'œuvre ou du tableau que l'on veut valoriser. Moins coûteuse est l'azurite. Le pigment bleu le plus utilisé dans l'Antiquité classique et le monde médiéval. Il ne s'agit pas d'une pierre, mais d'un minerai, fait d'un carbonate basique de cuivre. Sa stabilité est moins grande que celle du lapis. Il vire facilement au vert ou au noir. Et, surtout, lorsqu'il est mal broyé, ses bleus sont moins beaux. Broyé trop fin, il perd sa couleur et devient pâle. Broyé trop gros, il se mêle difficilement à un liant et donne une peinture granuleuse. Les Grecs et les Romains le font venir d'Arménie, lapis armenus, de Chypre, caeruleum cyprium, et du mont Sinaï. Au Moyen Âge, on l'extrait des monts d'Allemagne et de Bohême, d'où son nom, bleu de montagne. Les anciens savent également fabriquer des pigments bleus artificiels, à base de limaille de cuivre mélangée à du sable et à de la potasse. Les Égyptiens, notamment, ont produit de splendides tons de bleu et de bleu vert à partir de ces silicates de cuivre. On les trouve sur le petit mobilier funéraire, statuettes, figurines, perles, souvent revêtues d'une glaçure qui leur procure un aspect vitreux et précieux. Pour les Égyptiens, comme pour d'autres peuples du Proche et du Moyen-Orient, le bleu est une couleur bénéfique qui éloigne les forces du mal. Il est associé aux rituels funéraires et à la mort, pour protéger le défunt dans l'au-delà. Souvent, le vert joue un rôle voisin, et les deux couleurs sont associées. En Grèce, le bleu est moins valorisé et plus rare. Même si, dans l'architecture et la sculpture, fréquemment polychrome, le bleu sert parfois de couleur de fond sur laquelle s'inscrivent les figures. Ainsi, certaines frises du Parthénon. Les couleurs dominantes sont le rouge, le noir, le jaune et le blanc, auxquels il faut ajouter l'or. Plus encore que les Grecs, les Romains voient dans le bleu une couleur sombre, orientale ou barbare. Ils l'utilisent avec parcimonie. Pour eux, la couleur de la lumière n'est nullement le bleu, mais le rouge, associé au blanc ou à l'or. Dans un passage célèbre de son « Histoire naturelle » consacrée à la peinture, Pline affirme que les meilleurs peintres ont l'habitude de réduire leur palette à quatre couleurs : le blanc, le jaune, le rouge et le noir. Seule la mosaïque fait exception. Venue d'Orient, elle apporte avec elle une palette plus claire, plus verte, plus bleutée, que l'on retrouvera dans l'art byzantin et dans l'art paléo-chrétien. Le bleu y est non seulement la couleur de l'eau, mais aussi parfois celle du fond et de la lumière. Le Moyen Âge s'en souviendra. Les Grecs et les Romains voyaient-ils le bleu? Se fondant sur cette rareté relative des tons bleus, et surtout sur les données du lexique, plusieurs philologues se sont autrefois demandé si les Grecs, et à leur suite les Romains, étaient aveugles à la couleur bleue. Tant en grec qu'en latin, en effet, il est difficile de nommer cette couleur, faute d'un ou de plusieurs termes de base, solides et récurrents, comme il en existe pour le blanc, pour le rouge et pour le noir. En grec, où le lexique des couleurs a mis plusieurs siècles avant de se stabiliser, les deux mots les plus fréquemment employés pour désigner le bleu sont glaukos et kuaneos. Ce dernier est probablement à l'origine un terme désignant un minerai ou un métal. Sa racine n'est pas grecque et son sens est longtemps resté imprécis. À l'époque homérique, il qualifie aussi bien le bleu clair des yeux que le noir d'un vêtement de deuil. Mais jamais le bleu du ciel ni celui de la mer. Au reste, on a pu observer que chez Homère, sur 60 adjectifs qualifiant les éléments et le paysage dans l'Iliade et dans l'Odyssée, 3 seulement étaient des adjectifs de couleur. Les termes se rapportant à la lumière sont en revanche extrêmement nombreux. À l'époque classique, Kuanéos désigne une couleur sombre. Le bleu foncé, certes, mais aussi le violet, le noir, le brun. En fait, il donne plus le sentiment de la couleur qu'il n'indique sa coloration. Quant à Glaoukos, qui existe déjà à l'époque archaïque et dont Homère fait un grand usage, il exprime tantôt le vert, tantôt le gris, tantôt le bleu, parfois même le jaune ou le brun. Il traduit davantage une idée de pâleur ou de faible concentration de la couleur qu'une coloration véritablement définie. C'est pourquoi il s'emploie aussi bien pour nommer la couleur de l'eau que celle des yeux, des feuilles ou du miel. Inversement, pour qualifier la couleur manifestement bleue de certains objets, végétaux ou minéraux, les auteurs grecs emploient parfois des termes de couleur qui ne s'inscrivent pas dans le lexique des bleus. Pour prendre l'exemple des fleurs, l'iris, la pervenche et le bleuet peuvent ainsi être qualifiés de rouge. Érythros, vert, prasos ou noir, mélasse. Quant à la mer et au ciel, ils peuvent être de n'importe quelle couleur ou nuance, mais s'inscrivent rarement dans la gamme des tons bleus. D'où cette question que l'on s'est posée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les Grecs voyaient-ils le bleu comme nous le voyons aujourd'hui? À cette question, certains savants ont répondu non, mettant en avant des théories évolutionnistes quant aux capacités de vision des couleurs. Les hommes et les femmes appartenant à des sociétés techniquement et intellectuellement évoluées, ou prétendues telles, comme les sociétés occidentales contemporaines, seraient plus aptes à distinguer et à nommer un grand nombre de couleurs que ceux appartenant aux sociétés primitives ou antiques. Ces théories, qui ont aussitôt suscité des controverses passionnées et qui ont eu des partisans jusqu'à nos jours, me semblent à la fois fausses et indéfendables. Non seulement elle s'appuie sur un concept ethnocentriste, imprécis et dangereux, à partir de quels critères peut-on dire qu'une société est évoluée ou primitive, et qui en décide, mais elle confonde le phénomène de vision, en grande partie biologique, avec celui de perception, en grande partie culturelle. En outre, elles oublient ou ignorent l'écart, parfois considérable, qui existe à toute époque, dans toute société, chez tout individu, entre la couleur réelle, si tant est que cet adjectif veuille dire quelque chose, la couleur perçue et la couleur nommée. L'absence ou l'imprécision du bleu dans le lexique grec des couleurs doit d'abord s'étudier par rapport à ce lexique, à sa formation, à son fonctionnement, ensuite par rapport à l'idéologie des sociétés qui en font usage, mais nullement par rapport à l'appareil neurobiologique des individus composant ces sociétés. Cet appareil permettant la vision est chez les Grecs de l'Antiquité absolument identique à celui des Européens du XXe siècle. Mais les problèmes de la couleur ne se réduisent nullement à des problèmes biologiques ou neurobiologiques. Ils sont en grande partie sociaux et idéologiques. Cette même difficulté à nommer le bleu se retrouve en latin classique, et plus tard en latin médiéval. Certes, il existe ici quantité de termes. Caeruleus, Caesius, Glaucus, Kianeus, Liwidus, Wenetus, Aerius, Ferreus. Mais tous sont polysémiques, chromatiquement imprécis et d'emploi discordant. À commencer par le moins rare d'entre eux, Caeruleus, qui, étymologiquement, évoque la couleur de la cire, kera, entre blanc, brun et jaune, puis désigne certaines nuances de vert ou de noir, avant de se spécialiser dans la gamme des bleus. Cette imprécision et cette instabilité du lexique des bleus sont en fait le reflet du peu d'intérêt que les auteurs romains, et à leur suite ceux du premier Moyen-Âge chrétien, porte à cette couleur. Ce qui plus tard favorisera l'introduction de deux mots nouveaux dans le lexique latin pour désigner le bleu, l'un venu des langues germaniques, blaus, et l'autre de l'arabe, azureus. Ce sont ces mots qui finiront par prendre le pas sur les autres et par s'imposer dans les langues romanes. Ainsi, en français, comme du reste en italien et en espagnol, les deux mots les plus courants pour désigner la couleur bleue ne sont pas hérités du latin, mais de l'allemand et de l'arabe. Bleu, blau, et azur, lazaward. Par leur silence, leurs hésitations, leurs évolutions, leur fréquence ou leur rareté, les mots, et d'une manière générale les faits de lexique, apportent ainsi à l'historien de la couleur bleue un ensemble de témoignages d'une importance considérable. Si donc les Romains ne sont pas aveugles au bleu, comme l'ont cru quelques érudits du XIXe siècle, ils lui sont au mieux indifférents, au pire hostiles. En fait, pour eux, le bleu est surtout la couleur des barbares, celtes et germains, qui, au dire de César et de Tacite, ont l'habitude de se teindre le corps de cette couleur afin d'effrayer leurs adversaires. Ovide ajoute que les germains vieillissants se teignent les cheveux avec de la guêde pour rendre plus sombres leurs cheveux blancs. Pline va jusqu'à affirmer que les femmes des Bretons se peignent le corps en bleu foncé avec le même colorant, glastum, avant de se livrer à des rituels orgiaques. Il en conclut que le bleu est une couleur dont il faut se méfier ou se détourner. De fait, à Rome, se vêtir de bleu est en général dévalorisant, excentrique, surtout sous la République et au début de l'Empire, ou bien signe de deuil. Au reste, cette couleur disgracieuse quand elle est claire, inquiétante quand elle est sombre, est souvent associée à la mort et aux enfers. Quant à avoir les yeux bleus, c'est presque une disgrâce physique. Chez la femme, c'est la marque d'une nature peu vertueuse, chez l'homme, un trait efféminé, barbare ou ridicule. Et le théâtre, évidemment, se plaît à pousser de tels attributs jusqu'à la caricature. Terence, par exemple, associe à plusieurs reprises les yeux bleus aux cheveux roux et frisés, ou bien à la taille gigantesque ou à la corpulence adipeuse. Tout signe dévalorisant pour les Romains de l'époque républicaine. Voici comment il décrit un personnage ridicule dans sa comédie « Échira », écrite vers 160 avant notre ère. Un géant obèse, ayant les cheveux rouges et crépus, les yeux bleus et le visage pâle comme celui d'un cadavre.